Une langue, c'est un système de signes linguistiques, vocaux, graphiques ou gestuels qui permet la communication entre les individus. L'espéranto, c'est une langue internationale qui est parlée dans 120 pays à travers le monde. Elle nécessite un court apprentissage pour être réellement utilisable. Elle est une réponse possible, juste et économiquement équitable aux problèmes de communication entre personnes de pays différents. Actuellement, il y a des universités qui proposent des cycles d'études espérantophones au Brésil, en Bulgarie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie. Et l'Association mondiale d'espéranto a été fondée en 1908. L'espéranto n'est la langue officielle d'aucun pays, mais il est la langue de travail de plusieurs associations à but non lucratif. Le nombre d'espérantophones est difficile à évaluer. Les estimations varient entre 100 000 et 10 millions. 2 millions est le nombre le plus couramment repris, voire jusqu'à 3 millions. Toutefois, on peut affirmer en 2015 qu'il y a 120 pays dans lesquels se trouvent des espérantophones. Si vous voulez en savoir plus sur l'espéranto, eh bien, écoutez donc une interview de Radio Diwa qui est sortie hier ou aujourd'hui ou ces derniers jours et qui vous permet de découvrir plus qu'on ne peut vous le faire en introduction de Feu de tout bois numéro 180 ce soir. Et voilà, donc je lance une musique de début alors.
La violence a fait son nid, chronique des mots d'annonce et schizophrène. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir, Abilis. Bonsoir. Il fait nuit ce soir. Hein. Le feu de tout bois s'allume. Il est 19h passé de quelques minutes. Bonjour, Adrien.
De quelques trentaines de minutes, même.
Tu as raison. Depuis 4 ans, je fais la même gourde.
Et bah oui, c'est ça. Hein. On est jeudi 21, c'est ça?
Super, je me rappelais plus pendant la présentation. Ouais. Et ouais, ouais. Voilà, jeudi 21.
21 janvier
2016.
Ouais, ouais, ouais.
Et un programme qu'on avait bien envie de vous raconter des choses ce soir. Toi, Adrien est venu pour ça. Aline aussi, ici. Oui. Ah, ben oui, aussi. Vous offrir notamment grâce à l'agenda des places à prix libre.
Ah ouais.
Ouais, je me suis dit, un nouveau concept. Si vous écoutez, plutôt que de gagner des places, normalement, parce que tous ces endroits-là devraient nous envoyer des places à faire gagner. C'est le principe traditionnel. Mais c'est vrai que ça coûte cher en téléphone. Et ici, on est dans une région décroissante. Il suffit d'écouter la radio pour gagner une place, mais non pas une place gratuite quand même, mais une place à prix libre. Du coup, venez, allez dans tous les événements dont on parle. Vous pouvez y aller de la part de Radio Diwa, l'émission Feu de tout bois. Et donc, vous nous offrons une ou des places à prix libre.
Wow.
Voilà. C'est pour rendre attrayant un peu l'agenda. Là, vraiment. Ah ouais, trop bien. Ok. c'est pour des trucs qui ne sont pas à prix libre aussi.
Alors l'agenda, ouais, ça commence dès demain. Là. J'ai vu qu'il y avait un concert à la Griotte demain soir. Ça doit être vers 20h30, le début, quelque chose comme ça. Hein. Il me semble que j'ai vu ça. Et le groupe s'appelle The End, And, A-N-D. Voilà, c'est ce que j'ai vu avec une personne qui joue
avant et après aussi, oui, d'autres invités mixeurs russes ou je ne sais.
C'est ça.
Oui,
ça
une soirée
super sympa, vraiment.
Une soirée expérimentale, c'est un peu un des défis de la griotte, de savoir rester expérimental avec voilà.
Ouais.
Mais tu le conseilles, en tout cas, tu en parles parce que tu le conseilles, moi aussi, voilà, je le conseille. Ouais, moi je n'irai pas car il y a une super soirée le même soir à Manglon. Et oui, c'est la scène ouverte du bocal ce même soir. C'est comme ça, fatalité, mais ça veut dire que c'est un soir où beaucoup de monde sera sorti et on pourra être pas loin de chez soi pour aller passer une bonne soirée. Alors lors de cette scène ouverte, on peut d'ores et déjà être assuré qu'il y aura des dignes émules de Wanted, voire lui-même.
D'accord, je ne sais pas qui c'est Wanted.
C'est quelqu'un qui apparemment est recherché, donc on n'en dira pas plus ici, okay. Mais vous pourrez le trouver. Et qui fait accessoirement aussi de la musique, ou qui essaye en tout cas.
Ok, et alors moi j'ai quelque chose samedi. On m'a demandé de faire passer une info concernant les rendez-vous... que ça s'appelle La Grande Famille, et du coup c'est sur la petite enfance, et là en l'occurrence c'est une matinée, enfin de 10h à midi aux agités du local. Il y aura donc de 10h à midi un échange entre parents, accompagnants de jeunes enfants, parce qu'il s'agit de portage, donc voilà, c'est moins fatigant quand c'est porter jeunes. Et du coup, voilà, c'est 10h à midi, bah, c'est à prix libre, hein, je me sens bien.
Dimanche alors
Non, samedi.
Ok, samedi.
Donc voilà, je crois que tout ou presque a été dit là-dessus.
Il y a aussi un stage de couture les jours qui viennent, c'est en début de semaine prochaine et dimanche aussi, je pense, et même samedi. Peut-être. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment très très politique, parce que j'essaie toujours de faire des trucs rigolos, je ne sais pas si elles font exprès, de la conception du patron. Donc en fait, on va concevoir ce que c'est que le patron à la finition, et on va finir le patron. Donc en fait, ça va très vite au stage de couture. En fait, on invente
le capitalisme et on le détruit juste après.
Et donc ça se finit par « Venez avec vos infirmières », avais-je lu. Mais non, parce que je suis un peu fatigué, mais non, c'est venez avec vos fournitures. Donc voilà, toujours très drôle. Le mot pour rire, aller à la bonneterie, à l'étage des couturières. Il y a beaucoup de stages de tissage, c'est un endroit où on peut aller sans modération. Des ateliers laine à venir et tout. Voilà.
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 La suite de l'agenda. J'ai quelque chose, c'est un peu lointain.
Est-ce que c'est avant le mercredi prochain?
Ah, c'est après, non, c'est bien après.
Alors, mercredi prochain, écoutez, voilà, j'aimerais vous appeler votre attention sur un événement de la fête de l'écologie au quotidien.
La nécrologie au quotidien.
Voilà, va-t-il savoir. Et là, cette année, je me suis dit, oh, je vais parler de quelqu'un que j'aime vraiment bien et qui vient justement là.
C'est bien. Lui.
Donc, n'hésitez pas à vous rendre et à rencontrer Pablo Servigne, qui est auteur de « Comment tout peut s'effondrer » et du « Petit traité de résilience locale ». Qui aura lieu, alors c'est à 20h30, c'est comme d'habitude, le programme de l'écologie est très fourni, mais il y en a beaucoup, donc chopez-le, c'est le mercredi 27 janvier, et
alors pourquoi elle te plaît beaucoup cette personne, est-ce que tu peux nous dire pourquoi on pourrait aller voir
Voilà, ce que j'aime bien, c'est que c'est quelqu'un qui a un peu fait des études, d'agriculture, d'agronomie aussi, un peu dans la. Puis qui dit en fait ça craint quand même le monde tel qu'il est, un peu. Donc on peut partager certaines critiques et qui dit, comment arriver à accepter cette idée qu'il y a une sorte d'effondrement de certaines choses ou d'une partie de ce qu'on connaît. Une des choses qui m'a paru intéressant dans ce que je l'ai entendu. Exprimé, car j'ai jamais lu ces ouvrages, c'est le travail émotionnel qui est nécessaire à un chercheur et à quelqu'un qui est un peu professionnel de l'effondrement, de se dire à soi-même, bah oui, en fait, ce que je vois, c'est que ça craint et comment est-ce que j'accompagne ça et comment est-ce que je permets que qu'un public aussi puisse entendre ce qui est important d'un point de vue rationnel par rapport aux choses qui sont plus rationnel à faire ou plus intelligente collectivement même à faire que d'autres. Donc comment est-ce qu'on peut faire face à la fois aux détresses émotionnelles que ça provoque pour pouvoir agir rationnellement. Donc cette personne vient parler alors donc de l'utopie a changé de camp et utopiste, celui qui croit que tout peut continuer comme avant, l'effondrement est l'horizon de notre génération, c'est le début de son avenir. Qu'y aura-t-il après ? Point d'interrogation. Tout cela reste à penser, à imaginer et à vivre. Trois petits points. You, le post-apocalyptisme. Débarrassé de peur hein, ouais. que voilà que Zombie Production n'a pas cessé de nous inculquer, bien sûr. Et puis de peur aussi, qui existe, okay. Qui circule. Alors toi, tu avais c'est le 25 janvier. Hein, c'est très tôt.
Oui, c'est ça. Mais non, moi, c'est plus tard. Ce sera le 4 février. Ce sera la bonnetterie aussi. Et si j'ai bien compris l'heure, c'est 18h. Et il sera question des migrations, des parcours des migrants avec la projection d'un documentaire dont je ne me rappelle plus le nom. Enfin, tout ça n'est pas très grave. Je vous mets déjà un peu la puce à l'oreille là-dessus, parce que la semaine prochaine, il y aura quelqu'un qui viendra parler un peu plus précisément de cette soirée. Mais voilà, en tout cas, sachez que le 4 février, vous pouvez aller à la bonnetterie pour voir un super documentaire sur les parcours des migrants. En l'occurrence, ça se passe entre Turquie et Grèce. Et voilà, vous en saurez plus la semaine prochaine. Donc, n'oubliez pas d'écouter Feu de tout bois la semaine prochaine. Et ça s'arrête là, mon agenda.
Ah oui, il y a Feu de tout bois la semaine prochaine. Notre horizon, donc, indépassable. C'est le feu de tout bois de la semaine suivante. C'est la boucle est bouclée. Bon, alors l'agenda, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a un petit peu...
Qu'on peut parler de la... Ah oui, ouais, alors on parlera de plein de choses.
Je mets un fond sonore pour nous. Ah oui, voilà. C'est ça, voilà, le programme en construction.
Donc, le programme en construction, ce soir, oui. Nous parlerons, entre autres choses, on fera le prologue... de la question des sorcières qu'on avait abordé dans un numéro de la semaine dernière et puis dans un numéro du mois de décembre. Et puis là, je vous ai parlé la semaine dernière d'un autre ouvrage par rapport à celui dont je parlais la semaine dernière qui était Caliban et la sorcière de Silvia Federici. Et ben là, en prologue, j'avais bien envie de vous parler de sorcières, sages-femmes et infirmières dont j'ai parlé la semaine dernière et dont je me suis dit, en fait, ça pourrait être bien en fait, d'en parler un peu plus que juste de signaler ce bouquin. Donc voilà, je vous citerai 2-3 passages et puis on en parlera un petit peu. Et de quoi parlera-t-on d'autre ?
Super ! Super. J'avais pas en fait vraiment compris qu'il y avait une suite la semaine dernière et j'étais heureux quand tu as annoncé que tu parlerais de ça. Alors moi je propose une sorte de réponse qu'une auditrice a fait à notre émission et qui s'appelle Prendre son temps. C'est Liliane, voilà, qui a un moment à écouter, a eu envie de proposer une réponse, okay, qui, je crois, n'est jamais passée dans notre émission.
Okay.
Ça fait donc ça répond à voilà une émission qui a eu lieu peut-être il y a 6 mois. Liliane, vraiment, merci beaucoup pour cette contribution. Et je me demandais si tu voulais pas faire les sorcières tout de suite, on pouvait commencer par cette contribution et puis
très bien.
Et puis parler de cette suite de notre feuilleton.
Ok.
Et puis un autre sujet que nous aborderons peut-être si le temps nous passe, c'était en revue de presse, j'ai reçu Luge des classes, le journal qui descend la montagne. Alors la montagne, vous savez, c'est un journal aussi. Oui, c'est un peu une blague auvergnate, puisqu'en fait, c'est Lambert du décor numéro 1 de novembre 2015. Ah, tu en avais peut-être déjà parlé.
Pas du tout.
Okay.
J'essaie d'essayer les jeux de mots qui se suivent. Là, Lambert, et oui, il y a un jeu de mots.
Voilà, des Ambertois, Ambertoises, enjouées, qui nous donnent des nouvelles de leur Ambert. Alors, il faut savoir qu'Ambert, c'est une petite capitale un peu comme oui. Die. Hein, qui fait à peu près la même taille, qui est aussi une sous-préfecture, c'est qui est dans le Puy-de-Dôme, le 6-3, voilà, qui 6-3 représente, comme on dit souvent le dimanche soir à HHPQ, autre émission phare de Radio Diwa. Et
la 6-2 plutôt.
La 6-2. Ce journal, c'est ce qui est très amusant. Voilà, maintenant, en fait, administrativement, voilà, il y a encore un an, on s'en serait fichu de l'Auvergne. C'est pas du tout la même région que nous. Maintenant, en fait, il faut bien se mettre dans la tête que Ami Diwa Diwaz, c'est la même région.
Nous sommes un peu auvergnats.
Voilà. Et vous savez quoi? Ce journal qui date de novembre 2015, en fait, on pourra l'égrener un petit peu tout au cours du mois qui vient. Pourquoi pas tout voir ce soir, parce qu'on se rend compte que on était déjà la même région. C'est-à-dire qu'il y a un article sur les caméras de vidéosurveillance, un article sur les nouvelles technologies qui envahissent les campagnes et un peu des campagnes d'abrutissement menées par les édiles locales afin de faire de la propagande pour telle ou telle chose. Et un peu finalement, ouais, on était déjà à la même région. Donc autant donner des nouvelles. Voilà. Et ouais, surtout que la Biovallée est citée.
Ah
voilà.
Ouais.
Oui, comme exemple un peu à ne pas faire. Mais voilà, pour les gens de Luge des classes, donc pour qui la Biovallée a plus d'inconvénients que d'avantages, voilà, c'est une opinion qui est défendable aussi et ils passent pas leur temps là-dessus puisqu'ils ont effectivement leurs problèmes, leur lutte, mais qui peuvent être instructives pour nous, voilà, si on a le temps et quand on a le temps.
Et ben alors moi si je sais, on n'aura pas forcément le temps, mais alors je prends le temps de le signaler. Quand même, vous pouvez écouter sur le site internet de l'actualité des luttes. Il y a un chouette son sur un banquet contre l'état d'urgence. Et du coup, je trouve que c'est toujours bien de signaler qu'il y a des gens un peu partout en France qui sont contre cet état d'urgence et qui le font savoir. Et du coup, sur l'actualité des luttes, c'est sur Fréquence Paris Pluriel, la radio, une radio sur Paris. Mais vous pouvez écouter ce son en allant sur le site de Son en Lutte ou alors vous tapez l'actualité des luttes et puis vous tombez sur le dernier numéro qui du coup laisse place à plusieurs personnes qui parlent durant une représentation, enfin une manifestation publique contre l'état d'urgence. Et voilà, ça fait c'est toujours agréable de d'entendre des gens qui sont contre ça et qui le font savoir et qui explique aussi ce qui se passe dans l'état d'urgence, parce que des fois, quand on est à Die, on ne sait pas aussi tout ce qui se passe, parce qu'on a l'impression d'être moins touché par tout ça, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui se font, et pas beaucoup de choses qui se défont, finalement. Voilà. Et puis, si on a encore le temps, moi, je parlerai d'un documentaire sur les animaux médecins. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça le nom, ouais.
Oh super, bon bah donc jusqu'à 11h du soir on va s'allumer le Think Dub. Au revoir, reviens la semaine prochaine. Allez, et puis donc c'est toujours agréable aussi d'entendre un président de la République. Et puis donc on écoute juste après Liliane qui nous répondait.
Tranquillité, efficacité, ce sont les deux conditions pour maintenir non seulement la dignité de la France, mais surtout le bonheur des Français, leur possibilité d'être heureux et de ne pas se demander toujours ce qui va se passer demain, ce qui va se passer à la rentrée, comment vont se passer les examens, comment vont vivre les lycées, etc.
opposition aux concepts de masculinisme et de féminisme qui ont été mis en avant dans Feu de tout bois il y a 2 semaines. J'ai écrit un texte qui s'appelle « Prendre son temps ». Je parle du rapport à la mère et surtout de l'inexistence de ce rapport et donc de l'importance qu'a ce lien. Pour ça, je vais vous lire un texte écrit par Valérie Valère. Ce texte illustre vraiment l'évidence que si le lien avec la mère est inexistant, la vie même se transforme en pulsion de mort. Valérie, anorexique, reçoit la visite de sa mère dans le pavillon des fous. Alors, la mère dit à Valérie: alors, tu n'as rien à me dire d'autre? Qu'est-ce qu'elle veut que je lui raconte? Ce que j'ai vu ici, les araignées, les cafards, les filles folles, le silence, la souffrance, elle ne sait pas écouter. Elle regarderait de combien de centimètres se sont épaissies mes hanches avec un air révoltant de propriétaire. Amène-moi 4 fois plus de choses que pour une personne normale, 2 fois pour moi et 2 fois pour ma copine à côté. Bien. Ta grand-mère te dit bonjour. Non, je ne pourrai jamais le supporter. J'en ai rien à foutre de ma grand-mère, je m'en fous. C'est vrai, il ne faut pas que je me fâche. Cela ne sert à rien d'essayer d'expliquer des choses aux gens idiots. Ce n'est pas de sa faute si elle ne peut pas comprendre. Ne surtout pas se fâcher, ne surtout pas essayer d'expliquer, ne surtout pas. Ne rien faire, ne plus la voir, ne plus l'entendre. Perfidement, sa voix me perce les tympans. Ce n'est peut-être pas sa faute si elle est idiote, mais la méchanceté. Des larmes au coin des yeux, elle est émue, la pauvre. Il faut bien qu'elle se fasse son petit cinéma, qu'elle fasse semblant de m'aimer. Ça m'a tellement fait plaisir de te voir, ma petite fille. Elle ne pense qu'à elle. Si elle m'aimait, elle ne serait pas venue me parler de ses migraines nocturnes, d'une grand-mère, d'un bureau. Elle peut pleurer, elle n'arrivera jamais à m'atteindre. J'en ai trop versé de larmes. C'est risible. Cette femme qui joue mal sa petite comédie, qui apaise sa conscience. Si je ne me fais pas de soucis, je ne serai pas une mère. Non, elle ne l'a jamais été. Elle ne le sera jamais. C'est juste une femme, n'importe laquelle. Je dois la trouver gentille, parce qu'elle m'apporte des paquets de biscuits. Voilà, j'ai écrit quelque chose pour dire ce que je pense de ça. Donc, je pense que la société où nous sommes veut absolument tout séparer tout le temps. Cette attitude est devenue un automatisme. Cette société, c'est partout, tout le temps. Une femme est frustrée à cause d'un sentiment d'injustice. Alors automatiquement, elle rejette cette frustration en disant que c'est la faute des hommes. Pareil pour un homme, il se sent frustré. Ce sentiment qui, pour moi, vient d'un manque, peut-être d'une enfance peu épanouie. Cette frustration, il va pour régler le problème plus facilement, plus vite. Il va rejeter cette frustration sur ce qu'il pense être l'objet de son désespoir, l'objet de son désordre intérieur, les femmes. Pour moi, tout est faux là-dedans. Cette attitude n'est qu'un automatisme de plus dans cette société où les êtres humains sont devenus des robots à force d'être manipulés par leur propre peur, leur propre frustration et donc leur propre manque. Pour moi, l'être humain doit trouver ce qui lui manque, sa féminité, autant l'homme que la femme. Pour moi, la féminité, ce n'est pas de se plaindre pour tout et pour rien. Pour moi, la féminité, c'est gagner les marches de nos vrais rêves, nos vraies intentions, en apprenant à prendre son temps, le temps de vivre et le temps de respirer. J'ai abandonné ma mère à l'âge de 7 ans, abandonné dans le sens où je ne lui parlais presque plus. J'ai cherché l'importance du rapport à la mère dans la relation avec ma nourrice. Et je pense qu'une femme peut chérir son rapport à la terre, aux plantes, au vivant en général. Chérir ce rapport à chaque instant pour en faire quelque chose de précieux entre ses mains. Le féminin ne peut plus exister dans ce monde où tout est soigneusement découpé, cloisonné, chronométré. Parce que l'instant à naître a besoin d'attention. Il prend son temps, tout son temps. Donc pour moi, il y a autant de féminité dans l'homme que dans la femme. Dans notre société, tout est prévu, chronométré, cloisonné, jusqu'à castration totale. Alors, se battre pour les droits de la femme, même si c'est sûrement une priorité, se battre pour les droits de la femme, pour moi, ça ne veut plus dire grand-chose. Je pense que je peux me battre pour avoir le droit de prendre mon temps dans presque toutes les circonstances. Mais en fait, cette faculté est autant dans l'homme que dans la femme.
Merci Liliane pour ta contribution et Adrien avec une nouvelle voix, je pense.
On va pouvoir. À peu près, oui. Oui, et ben donc je fais le prologue de cette série de blablatage sur les sorcières. Là, peut-être, en fait, il sera pas trop question de sorcières dans ce dernier épisode, puisque du coup, j'ai dans les mains un ouvrage qui a été écrit par deux féministes américaines qui s'appellent Barbara Ehrenreich et Deirdre English, et qui s'appelle Sorcières, sages-femmes et infirmières, une histoire des femmes soignantes. C'est un texte qui date des années 70. Qui a été qui date de même de 1970 je crois, hein. Non, en 73 pardon, date de sa première parution aux États-Unis. C'est un texte qui a été réédité il y a pas longtemps par une édition qui s'appelle Cambourakis, qui édite plusieurs ouvrages féministes, petite maison d'édition. Et voilà, qui commence par tout un, enfin, par une introduction à cette édition pour un peu, en fait, parce que le texte est un pamphlet. Donc, en quoi était intéressant de présenter de publier un pamphlet qui a maintenant 40 ans. Donc, elle s'explique pourquoi. Je ne vais pas rentrer spécialement dans ce qui se dit du pourquoi. Peut-être déjà, enfin, juste tout simplement rappeler que, voilà, c'est parce que voilà, on soutient au mouvement féministe. C'était pour rappeler aussi cette histoire des sorcières qui maintenant revoit en France un peu et on s'y intéresse un peu plus. Et du coup, ça permet de réenchérir le mouvement féministe et les questions féministes. Donc c'est un peu là-dessus qu'elle parle pour expliquer la réédition de cet ouvrage. C'est un pamphlet, mais n'empêche qu'il y a aussi pas mal d'infos intéressantes. C'est pas non plus c'est pas lapidaire comme pamphlet. Je ne m'attarde pas spécialement sur la partie sorcière, parce que ça reprend pas mal de choses. Enfin, ça reprend. En fait, c'est Silvia Federici qui a repris pas mal de choses de ce qui est inscrit dans ce pamphlet. Ça, il y a des choses qui ont été un petit peu infirmées, d'autres confirmées. Mais voilà, on est sur notamment les sorcières vues comme personnes soignantes, et du coup, et comme femmes soignantes, et voilà, comment on a mis. On a mis de côté, brûlé, torturé ces personnes-là en Europe. Mais ce qui m'a semblé plus intéressant, surtout par rapport à ce qui a déjà été dit, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. parce qu'il y a la seconde partie de l'ouvrage traite de ce qui se passe aux États-Unis et est intitulée Les femmes et l'ascension de la profession médicale aux États-Unis. Comment les médecins dits réguliers ont squeezé les pratiques de médecine de femmes et de personnes qui n'étaient pas affiliées à un diplôme, à une université, et comment la profession médicale s'est créée aux États-Unis a complètement bouleversé le rôle des femmes au sein de dans le domaine du soin. Donc c'est pour ça que du coup je m'intéresse plus à la partie sage-femme et infirmière que sorcière. Donc voilà, par rapport au titre qui est sorcière, sage-femme et infirmière, une histoire des femmes soignantes. Je vais citer un premier petit passage parce que voilà, on est au 19e siècle aux États-Unis et elle parle de ce qu'était la profession médicale aux États-Unis à cette époque. Donc voilà, l'enseignement notamment. Donc elle dit, au lieu de cela, on enseignait aux réguliers, donc les médecins réguliers, à traiter la plupart des maladies par des mesures héroïques, des saignées copieuses, des laxatifs à haute dose, du calomel, un laxatif contenant du mercure, et plus tard de l'opium. La profession médicale européenne n'avait elle-même pas beaucoup mieux à offrir à cette époque. Il ne fait aucun doute que leurs remèdes étaient souvent fatals ou aggravaient l'état du malade. Un médecin distingué, Olivier Wendell Holmes Sr., affirmait que si l'on jetait dans l'océan tous les médicaments utilisés aux États-Unis par des docteurs réguliers, ce serait vraiment la meilleure chose pour l'humanité et la pire pour les poissons. C'est peut-être encore vrai aujourd'hui d'ailleurs, mais pour les poissons c'est sûr. Oui. En tout cas, bref, en tout cas voilà, on était l'état de la médecine aux États-Unis. Voilà, c'est un peu aussi pour battre en brèche le fameux mythe de la science et des médecins qui ont apporté une meilleure espérance de vie, un meilleur bien-être et une meilleure santé. En fait, il se trouve qu'encore au 19e siècle et même au début du 20e siècle, on avait encore des choses assez assez mauvaises dans le soin, hein. une saignée, voilà, c'est ouvrir une veine et faire le sang s'écoule, et puis du coup comme ça on dit que les choses sortent un peu, les mauvaises choses sortent. Bon, ça fait pas forcément beaucoup ses preuves dans beaucoup de cas. D'ailleurs ça t'est abandonné, hein, c'est pas pour rien. Mais ce dont je voulais plus parler, c'est le mouvement populaire pour la santé, parce que du coup, face à des médecins qui commençaient à réclamer du coup une position officielle et à écarter les pratiques non conventionnelles, on va dire, il y a eu un mouvement populaire pour la santé qui s'est formé aux États-Unis, et je vais lire un extrait du chapitre qui est consacré à ce mouvement populaire pour la santé. Dans les histoires conventionnelles de la médecine, le mouvement populaire pour la santé des années 1830-1840 est en général rapidement écarté comme étant le sommet de la vague du charlatanisme et du sectarisme médical. En réalité, ce fut le front médical d'un soulèvement social généralisé, attisé par le mouvement féministe et le mouvement ouvrier. Les femmes étaient la colonne vertébrale du mouvement populaire pour la santé. On vit fleurir partout des sociétés de physiologie de dames, l'équivalent de nos cours Connaissez votre corps. Donc là, on est, enfin voilà, Connaissez votre corps, ça fait référence au self-help. Donc le self-help qui était des pratiques en fait de femmes qui se retrouvaient entre elles. Donc notamment, ça a commencé dans les années 60-70 aux États-Unis pour notamment les questions gynécologiques et se observer ensemble l'utérus et comprendre comment ça fonctionnait tout ça sans médecin, sans, ou alors avec des médecins juste qui étaient là pour aider dans quelque chose de réappropriation du savoir de ces savoirs là gynécologiques.
Les années 50-70 toujours de 1800.
De 1900, oui, là, pardon. Là, du coup, là, je parle de, quand elle dit connaissez des, quand elle parle de l'équivalent de connaissez votre corps, c'est du coup la féministe des années 70 qui parle.
Okay.
Et donc, c'est ce mouvement de self-help est né aux États-Unis dans les années 1970, ouais, qui d'ailleurs a rebondi après en Europe et qui est encore présent, hein, il y a encore des choses qui se passent de ce côté-là. En tout cas, en 1830-1840, donc il y a cette société de physiologie de dames, qui se créait et qui enseignait à des auditoires captivés des notions simples d'anatomie et d'hygiène personnelle. L'accent était mis sur les soins préventifs en opposition aux remèdes meurtriers appliqués par les docteurs réguliers. Le mouvement recommandait de prendre des bains fréquents, ce que de nombreux docteurs réguliers considéraient à l'époque comme un vice. De porter des vêtements féminins amples, de consommer des céréales complètes, de ne pas boire d'alcool, et il soulevait tout un ensemble d'autres questions qui concernaient les femmes. Et à peu près à l'époque où la mère de Margaret Sanger était encore une petite fille, certaines dans le mouvement promouvaient déjà la contraception, dont Margaret Sanger est une féministe américaine. Le mouvement constituait une attaque radicale contre l'élitisme médical et un soutien à la médecine traditionnelle du peuple. Une des branches du mouvement avait pour slogan « Chaque homme est son propre docteur ». Et il était clair dans son discours que chaque femme l'était également. Les docteurs réguliers, diplômés, étaient attaqués en tant que membres de classes parasites et non productives, qui ne survivaient que grâce au goût scabreux de la classe dominante pour le calomel et les saignées. Les universités, où était formée l'élite des docteurs réguliers, étaient dénoncées comme des lieux où les étudiants apprennent à considérer le travail comme vil et dégradant et à s'identifier à la classe dominante. Les radicaux de la classe ouvrière se rallièrent à la cause dénonçant les quatre fléaux de l'époque, l'art de la royauté, l'art de la prêtrise, l'art de la loi et l'art de la médecine. Dans l'état de New York, le mouvement était représenté à la législature, c'est le nom du parlement, la législature, par un membre de Working Men's Party. Donc le Working Men's Party était un syndicat ouvrier. C'était un syndicat ouvrier à la base qui a essayé de présenter des candidats à la législature, donc à l'Assemblée. Donc voilà, le mouvement était représenté donc à l'Assemblée par un membre de ce parti qui ne manquait jamais d'occasion d'attaquer les docteurs privilégiés. Donc voilà, c'est un mouvement apparemment assez fort. On n'en saura pas beaucoup plus malheureusement dans ce livre. Moi j'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus, notamment entre le mouvement ouvrier et le mouvement pour la santé, parce que du coup voilà, c'était des mouvements de du coup révolutionnaires, en tout cas de contestation forte du système, et à la fois populaire, pour la santé, féministe, enfin voilà, c'est, on n'en apprendra pas beaucoup plus dans cet ouvrage sur ce mouvement, même si enfin ce qu'on apprendra c'est surtout la contre-attaque des docteurs et comment ce mouvement aussi s'est scindé avec une partie qui a formé des médecines alternatives et qui a du coup qui s'est orienté plutôt vers ça, et d'autres qui a continué quelque chose plus de lutte contre pour la reconnaissance de leur pratique, pour une médecine aussi. Je crois que ce que j'avais noté aussi qui était important, c'est dans ce mouvement, c'est que voilà, il y avait l'idée que les soins devaient être pas ou peu rémunérés, enfin que c'était quelque chose de vraiment important. Et donc du coup on est face à un mouvement populaire, on a un mouvement des docteurs qui est issu de la classe dominante, donc des gens en général qui sont du côté des dominants, dans le sens où ils sont voilà, ils sont dans ils sont issus de milieux aisés, et donc il y a aussi une histoire de lutte de classe qui est présente dans cette lutte du mouvement pour la santé et la réaction des docteurs. Ça c'est un passage que je voulais citer, et puis un peu plus loin pour finir,
un sujet à creuser encore, en fait, à chaque fois que tu viens avec cette question, ça nous donne lieu à voilà, appel si vous
si
vous avez envie de partager vos connaissances sur le mouvement pour la santé américain des années 30-40, qu'est-il devenu, comment avec justement ces mouvements féministes des années 50-70. Est-ce qu'il y avait une filiation, enfin, ou une filiation, ou en fait des pratiques qui ont quand même survécu entre les deux périodes, et puis entre ce qui se passe maintenant aussi. Bon, bah ça, on vous en parle tout le temps, en fait, tout bois, ce qui se passe maintenant. Voilà, mais il y a des racines.
N'hésitez pas à venir
l'hiver,
c'est la nous
saison
voir.
Des racines.
Et du coup, elle parle, enfin, à la fin, elle revient sur le rôle des infirmières aussi, comment ce métier-là a été inventé. Ben, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que j'avais quand même la vague idée, moi, enfin la vague idée, en tout cas, de manière un peu intuitive ou juste par mes propres observations, de voir que le corps médical était particulièrement sexiste et que la hiérarchie était organisée de façon à ce que les hommes aient haut du pavé et les femmes soit dans des fonctions dites subalternes. Et la création du rôle d'infirmière aux États-Unis est très clairement sexiste. Et du coup, je vais vous citer un passage de ce livre qui explique comment ça s'est passé. Observons d'un peu plus près ces femmes qui ont inventé le métier d'infirmière. Oui, parce que ce sont des femmes qui sont à l'origine de ce métier d'infirmière. On va comprendre comment ça s'est passé. Parce que très clairement, ce métier tel que nous le connaissons aujourd'hui est le produit de leur oppression en tant que femmes de la classe dominante dans la société victorienne. Dorothea X était l'héritière d'une importante fortune. Florence Nightingale et Louisa Schuyler, l'élément moteur de la création de la première école d'infirmières du style Nightingale aux États-Unis, étaient des aristocrates authentiques. Elles étaient des rescapées de l'oisiveté imposées aux femmes dans la société victorienne. Dix et Nightingale n'ont commencé leur carrière de réformatrice qu'après avoir dépassé la trentaine, confrontées à la perspective d'une longue et vaine existence de vieille fille. Elles consacrèrent leur énergie aux soins des malades parce que c'était un intérêt naturel et acceptable pour les femmes de leur classe sociale. Nightingale et ses disciples immédiates marquèrent le métier d'infirmière de l'empreinte indélébile de leurs préjugés de classe. La formation insistait sur l'attitude plutôt que sur le savoir-faire. Le produit fini, l'infirmière façon Nightingale, était tout simplement la dame idéale transplantée de la maison à l'hôpital et dispensée de responsabilité de la reproduction. Au docteur, elle apportait la vertu d'obéissance absolue propre aux bonnes épouses. Au patient, elle apportait le dévouement désintéressé d'une mère. Aux employés subalternes de l'hôpital, elle apportait la discipline ferme mais bienveillante d'une maîtresse de maison habituée à diriger les domestiques. Mais en dépit de l'image séduisante de la dame de la lampe à la lampe, c'était un peu comme ça et qui était appelée à la base des infirmières, parce qu'elle venait voir les malades la nuit. Donc en dépit de cette image séduisante de la dame à la lampe, le travail d'infirmière était surtout constitué de travaux ménagers pénibles et sous-payés. Bientôt, la majorité des écoles d'infirmières n'attirèrent plus que des femmes de la classe ouvrière et la classe moyenne inférieure, dont les seules autres possibilités d'emploi étaient le travail à l'usine ou dans un bureau. Mais la philosophie de la formation des infirmières ne changea pas. Après tout, les formatrices étaient toujours des femmes des classes moyennes et supérieures. Elles insistèrent même davantage encore sur le développement d'une attitude distinguée, et la socialisation des infirmières devint ce qu'elle a été pendant presque tout le XXe siècle, l'imposition des valeurs culturelles de la classe dominante aux femmes de la classe ouvrière. Par exemple, jusqu'à récemment, on enseignait à la plupart des élèves infirmières les bonnes manières de la classe dominante telles que le service du thé, le goût artistique, etc. On enseigne encore aux aides-soignantes à porter des gaines, à se maquiller et plus généralement à imiter le comportement d'une classe des femmes meilleures. Mais l'infirmière façon Nightingale ne symbolisait pas uniquement la projection de la condition féminine de la classe dominante dans le monde du travail. Elle incarnait le véritable esprit de la féminité telle que la société victorienne sexiste l'avait définie. Elle était la femme, avec un F majuscule. Celles qui inventèrent le métier d'infirmière le voyaient comme une vocation naturelle pour les femmes juste après la maternité. Lorsqu'un groupe d'infirmières anglaises proposa d'aligner le métier d'infirmière sur la profession médicale avec les examens et diplômes, Nightingale répondit que les infirmières ne sauraient s'inscrire ni passer des examens, pas plus que les mères. Ou comme l'écrivait un historien de la profession presque un siècle plus tard, la femme est une infirmière d'instinct, formée par la mère nature. Si les femmes étaient des infirmières d'instinct, elles n'étaient pas du point de vue de Nightingale des docteurs d'instinct. Elle écrivit à propos des rares femmes médecins de son temps. Elles ont uniquement tenté d'être des hommes et elles n'ont réussi qu'à être des hommes de troisième catégorie. De fait, alors que le nombre d'élèves d'infirmières augmentait à la fin du XIXe siècle, le nombre d'étudiantes en médecine commença à décliner. La femme avait trouvé sa place dans le système de santé. Alors je crois que je voulais finir par un dernier passage. Mais est-ce que c'était nécessaire? Pas forcément, non, c'était... voilà, ça, du coup, c'était... elle finit par bien insister, comme quoi l'infirmière, c'est un peu les qualités de femme de maison qu'on demande à l'infirmière, donc d'être gentille avec les patients, d'être obéissante par rapport aux médecins. Donc voilà, c'était j'ai trouvé ça assez bien vu... ce qui était indiqué, et notamment du coup dans la formation initiale des infirmières, c'était vraiment ça, vraiment ça qui était mis en avant. Et elle parle d'une guerre, je crois, de Corée, ou enfin d'une guerre au XIXe siècle où les femmes ont été amenées à être amenée, je sais pas si c'était pour être infirmière à la base, mais en tout cas proche de elles se sont retrouvées infirmières parce que au début les docteurs médecins les médecins ne voulaient pas les médecins hommes et puis finalement une infirmière je crois issue du milieu aristocratique est venue et a aidé et s'est soumise complètement aux ordres des médecins et les médecins ont dit bon bah, dans ces cas-là si ça se passe comme ça bon pourquoi pas des femmes allez ça ira quoi du coup, voilà, c'était une anecdote assez symptomatique. Et aujourd'hui encore, voilà, les beaucoup plus d'hommes médecins que de femmes médecins. Les infirmières, enfin voilà, il y a au niveau hiérarchique, il y a quand même une hiérarchie assez forte dans le système hospitalier entre infirmières et médecins. Que ça soit d'ailleurs, là, on parle des États-Unis, mais en France ou ailleurs, c'est à peu près la même chose. Il y a beaucoup plus d'infirmières que d'infirmiers. Et donc, cette question vaut toujours la peine d'être posée. Donc, le titre de l'ouvrage, c'est Sorcières, sages-femmes et infirmières, une histoire des femmes soignantes, qui a été réédité il n'y a pas longtemps et qui est sérigraphié. En plus, c'est très joli la couverture. Du coup, et je l'ai trouvé à la librairie Indie. Donc, c'est disponible dans
Mosaïque.
à Mosaïque, tout à fait. Voilà, j'ai gardé le nom.
Ben oui, là, quand tu parlais des études, du programme des études d'infirmière, c'est aux États-Unis.
Oui, c'est aux
oui,
États-Unis.
c'est aux États-Unis. Donc, mais on est quand même très intéressé si vous êtes vous-même infirmière ou infirmier, stagiaire peut-être à l'hôpital de Dick, en formation, que vous nous écoutez ou que vous en connaissez, vous avez des amis qui sont dans cette situation, ben voilà, on serait curieux de savoir ce qu'il en est maintenant. Aussi bien de chacun des différents sujets qu'on a abordés voilà, et qu'on continuera d'aborder. En tout cas, bienvenue pour parler de ça. Je propose qu'on écoute. Et alors, on peut donner
on
l'heure.
On écoute déjà quelque chose.
Voilà, ça c'est la musique de fond un peu. Ouais, il est combien? 20 h passées de bientôt 20 minutes. Donc on a encore un peu de temps pour parler
Ah
des
oui.
animaux musiciens, tu nous
Non,
préposais.
non, pourquoi pas, mais moi j'ai vu seulement. J'aimerais toujours d'animaux médecins, mais.
Ma langue a fourché. Voilà.
Décidément, entre
Oh là là là,
les
la fatigue.
infirmiers.
Alors peut-être de luge des classes.
Ben oui.
Voilà. En tout cas, mais je propose d'écouter une chanson de Marianne Oswald sur les canons. Ouais, parce que
Ok.
c'est.
John, leur sergent, c'était George E. Carson. Au régiment, peu importe d'où l'on vient, si l'on marche, tout va bien. Le canon tonne, nos pas résonnent. Hugo, Joe, Malabar. Chaud ou froid, soif ou faim, la mort vient à la fin. Ni plus tôt ni plus tard, que l'ennemi soit blond ou noir, cela t'est bien égal si tu dois crever ce soir. Johnny trouvait le whisky fat et Jimmy avait le ventre bien malade. Alors George, il est pris par les bras, tous les trois en avancera ou en crèvera. Du gauche au Malabar, chaud ou froid, soif ou faim, la mort vient à la fin. Ni plus tôt ni plus tard, que l'ennemi soit blanc ou noir, cela t'est bien égal si tu dois crever ce soir. Jim fut tué, John a trouvé la mort et Georgie de son dernier sommeil d'or. Mais pour la guerre, on trouvera toujours du sang rouge qui coulera. Le canon tonne, non pas résonne, du Gange au Malabar. Chaud ou froid, soif ou faim, la mort vient à la fin, ni plus tôt ni plus tard, que l'ennemi soit blanc ou noir. Cela t'est bien égal si tu dois crever ce soir.
Voilà.
Les canons.
Bonne nouvelle, on est encore là.
Ouais.
Ouais,
la guerre n'est pas passée. Alors, j'ai une courte information qui est importante peut-être. À Nice, samedi dernier, le 16 janvier, il y a 300 personnes qui se sont rassemblées pour, en défense du loup, y compris des bergers. Alors, depuis des années, il y a une focalisation assez nette il y a des frictions entre des naturalistes et des bergers. Et là, dans cette manifestation, voilà, il y avait des bergers qui ont accompagné tout le long de la manifestation. Et c'est des ONG qui proposent qui proposaient ce rassemblement et qui sont plutôt dans des revendications réformistes, comme demander à ce qu'il y ait plus de protection contre le loup par des emplois d'aide berger en plus, par exemple, enfin dans des propositions comme ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé intéressant de signaler ça, qui est un des signes qui fait que notre vision du loup était de toute façon faussée, puisque depuis le début, il n'y avait pas qu'un seul loup, contrairement à ce que répètent vraiment les gens qui sont contre le loup ou qui se disent opposants au loup. Ils croient vraiment qu'il n'y en a qu'un seul. Non, en fait, donc cessons de séparer les choses. Voyons les choses dans leur ensemble et voyons où on en est de cette rencontre interespèce, un rebondissement donc à suivre. Très et bien. Les animaux, ah ouais, bah voilà.
Là, c'est super. Une rencontre interespèce. C'est exactement ça dont je voulais parler. Ouais, parce que j'ai vu un documentaire sur les animaux médecins. Alors ce documentaire qu'on peut voir librement sur internet, on tape les animaux médecins et ça, on le voit, c'est divisé en quatre parties, ça dure je pense une petite heure quoi. Et donc justement c'est la rencontre d'une personne qui étudie des singes en Afrique, alors je ne saurais plus dire où en Afrique, mais qui se rend compte en fait que les singes se soignent en utilisent des plantes pour se soigner, et notamment pour se soigner de parasitisme. Alors en fait, les animaux qui se soignent, bah moi je me suis dit bah rien de nouveau. Après tout, en fait, voilà. Quand on voit des chats qui mangent de l'herbe pour soigner des parasites, enfin non, pour se laver les poils qu'ils ont ingurgités durant leur toilette, bon c'est une espèce de soin. Puis il y en a d'autres qui se purgent avec ça et tout ça, donc. Bon, des animaux qui se soignent, ok, mais en fait c'est un peu connu, donc j'étais le apparemment c'est moins connu du corps scientifique, hein, donc eux ils apprennent des choses là-dessus, donc tant mieux pour eux. Il y a pas d'âge pour apprendre, voilà, il y a différents scientifiques qui apprennent que les animaux se soignent. Alors ce qui est intéressant, c'est que bon, on voit quand même que il y a des méthodes assez élaborées pour soigner, hein, mais bon, ce qu'on peut aussi se douter, des papillons qui utilisent une plante pour lutter contre un parasite aussi, qui posent leurs œufs sur une plante qui permet de lutter contre un parasite. Et puis après, on a des oiseaux en Corse qui sont des mésanges bleus, en l'occurrence, qui utilisent des plantes médicinales pour mettre dans leur nid, aussi pour des histoires de parasitisme, notamment de la lavande, de l'hélichryse, enfin voilà, donc c'est... Et qu'elles choisissent vraiment. Alors, Ils en sont pas encore là, mais ils ont quand même des hypothèses sur le fait qu'elles choisissent quand même pas non plus n'importe quelle plante contre le parasitisme. Voilà, parce qu'en Corse, on peut trouver plein de plantes contre les parasites, et il y a certaines plantes qu'elles utilisent plus que d'autres, donc enfin, selon les cas, certaines sont utilisées plus que d'autres. Donc voilà, le corps scientifique apprend que les animaux se soignent et apprend une chose intéressante, peut-être s'intéresse à une chose encore plus intéressante, c'est que les humains ont à apprendre des animaux. Et du coup, à la fin du reportage, et sur une personne, des personnes guérisseurs qui du coup en Afrique, on retourne sur cette histoire de singes en Afrique, qui observent les singes, des guérisseurs, et qui du coup en déduisent des remèdes pour les humains. Donc là, il y a l'exemple d'un remède, je crois que c'est pour des troubles plutôt. Des troubles intestinaux, enfin des troubles de digestion. Et donc voilà, ce guérisseur a observé des singes et a utilisé quelque chose après pour soigner des humains, et ça a marché. Du coup voilà, j'étais à la fois surpris de ce documentaire où finalement on me suis dit on n'apprenait pas grand-chose, puisque moi je le savais depuis quelque temps quand même, je crois que les animaux savaient se soigner par eux-mêmes. Mais j'ai trouvé intéressant dans le sens où ça peut-être. Enfin, c'est bien qu'on change de regard sur humain, non humain, et que en fait les animaux sont sensibles, doués d'intelligence, et savent se soigner et faire plein de choses, et sont pas juste des êtres inférieurs aux êtres humains qui ont une vie végétative sans force de production intéressante, ou alors juste dans du bétail. Donc voilà, des animaux, c'est aussi des êtres sensibles qui se soignent et dont on a à apprendre beaucoup en fait. Donc ben c'est bien que la science des fois aussi évolue vers là. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de parler rapidement de ce documentaire. Je sais pas si toi, Aline, tu savais que les animaux se soignaient.
Oui, comme toi, j'ai déjà vu, oui, c'est ça, des animaux qui vont vers certaines, après des particularités comme les insectes, certains, enfin, je me doutais pas, enfin, on peut pas. On peut imaginer que tout est possible, mais aussi que si se soigner, c'est prendre soin, en fait, aussi, et que si ces animaux, on peut les voir agir, c'est qu'ils sont vivants, ces plantes aussi, et que s'ils sont vivants, c'est qu'ils sont en vie, et on partage peut-être cette idée que la vie, ben, pour que ça marche, il faut en prendre soin. Enfin, voilà, porter une certaine attention à cette chose, et que le simple fait qu'il y ait de la vie, c'est qu'il y a pour l'instant suffisamment de parties de cette vie d'insectes qui arrivent à prendre soin suffisamment d'eux, et qui ne sont pas encore tout à fait détruits. Enfin, pour moi, tant qu'il y a de la vie, il y a du soin. S'il n'y a plus de soins, en tout cas, il n'y a plus de vie. Du coup, je ne suis pas du tout, absolument pas surpris, mais par l'idée. Mais je suis toujours surpris et étonné par les formes que ça prend, et que ce soit tel insecte qui ait précisément besoin de telle molécule, et puis que ben, si on étudie un peu et si on regarde ce qui se passe, il n'y a pas besoin de faire des manipulations génétiques, il n'y a pas besoin de détruire pour faire des observations de ce qu'on appelle les sciences naturelles. Donc c'est simplement ça, mettre en évidence des phénomènes qui existent et qu'il y a juste à observer, il n'y a même pas besoin de les enfermer, les insectes, ou de couper les fleurs en question, quoi. On en prend un petit échantillon pour analyser et tout ça. C'est super beau ce que tu racontes. Ouais, voilà, ça ne m'étonne pas, mais je suis toujours ravi quand même.
Et du coup, c'est vrai qu'à la fin, ils disent aussi que voilà, ça fait avancer des recherches pour des traitements contre le paludisme aussi, ces observations. Donc voilà. Je sais pas, c'est bien que le regard des humains change sur les animaux. Enfin, de certains humains. Voilà. Bah j'ai une petite info aussi, tiens, que je prends
Allez.
le temps de dire. Il y a tout un tas de choses qui se dessinent contre l'expulsion des paysans historiques à Notre-Dame-des-Landes. Donc, lundi 25, le jour du rendu du procès pour l'expulsion des opposants historiques agriculteurs présents sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il y aura une mobilisation à Grenoble. Alors, à ce moment, je me souviens de la rue, mais pas de l'heure. Rue Félix Poulla. Mais je
Une des
crois. Ouais, c'est ça, c'est
grandes
pour ça que
rues
je me souviens de la
de
rue.
Grenoble, Félix Poulla, et donc
C'est le soir.
oui, c'est une Alors c'est un rassemblement ou
c'est un rassemblement.
Table d'information ou alors une...
C'est un rassemblement, j'imagine qu'il y aura une table d'information aussi. Voilà, mais en tout
donc
cas,
pour accueillir ensemble le rendu du verdict.
Oui.
C'est ce jour-là que alors la justice doit décider si plusieurs familles en fait sont expulsables. C'est exactement ce
expropriable en fait.
Enfin,
c'est même
ce dont il était question dans l'émission de la semaine dernière.
Ouais,
donc voilà, il y a aussi des informations à écouter et. Donc voilà, donc dans plusieurs villes, il y a ça.
Attendez l'oreille parce qu'il y aura des choses certainement dans le coin. Moi, j'ai pas entendu parler, mais.
En tout cas, on sait qu'il y a un blog nadir.zad, c'est dans ce sens-là, .org.
C'est plutôt zad.nadir.
zad.nadir.org. Ouais. Et peut-être qu'il y a des onglets régionaux pour savoir ce qui se passe aussi dans la région. Et puis, comme tu dis, ouvrez l'œil, tendez l'oreille. Peut-être que. En tout cas, c'est un sujet, on le sait, qui ne laisse pas insensible. Le Diwa révolté, insurgé, qu'on entend gronder parfois dans la montagne et dans les plaines.
Ce n'est pas les cascades et les rochers qui tombent, c'est le Diwa insurgé. Alors, je sais plus, je t'avais entendu parler de quelque chose dont tu n'as... Ah oui, la luge des classes alors.
Voilà, l'heure aussi, il est 20h30, ça fait une heure que nous sommes ensemble, un peu plus d'une heure que vous avez rejoint Feu de Toutbois si vous l'écoutez depuis le début. Et oui, si c'est le cas, vous êtes donc, merci pour cette transition, glissé avec nous dans la luge des classes, le journal qui descend la montagne. C'est un journal qui se veut vindicatif. Alors, on a toujours l'habitude, même nous ici, d'appeler journal même des choses qui ne sont pas des quotidiens. Donc, je crois que c'est un peu un abus de langage quand même. Hein. Il faut bien se le dire.
Le journal, a priori, oui. C'est...
Voilà. Là, donc, il s'agit déjà un numéro qui date de novembre 2015 et puis qui s'appelle Lambert du décor numéro 1. Savoir s'il y aura un numéro 2 ou tout ça. En tout cas, ça ressemble plutôt à un magazine photocopié. Vous voyez, voilà. C'est pas tellement... ils appellent ça... journal, mais parce que la montagne est un journal un peu officiel, genre le Dauphiné Libéré, je pense, mais peut-être de gauche. Non,
je sais pas.
Je te vois. C'est l'Auvergne, il faut qu'on se...
Il faut qu'on s'y mette,
hein. Voilà. Et qui font, comme je le disais en introduction, des articles qui touchent des sujets, des thèmes auxquels on est, on pourrait vraiment faire partie de la même région. La campagne cible privilégiée de l'invasion technologique. On voit ça par ici aussi. On voit ça qui était dans d'autres campagnes aussi, dans des campagnes. Alors, voilà, il y a des sites régionaux qui font la promotion de ces nouvelles technologies. Alors, c'est aussi le cas à Lille, on nous rappelle. Et vraiment les conseils généraux, enfin les ex-conseils généraux, donc maintenant les assemblées départementales, sans doute elles ont changé de nom, mais elles vont quand même promouvoir le très haut débit de par son aspect pratique. Vous voyez, ça motive certaines personnes à venir travailler dans les campagnes et tout ça. Enfin, il y a plein de bons messages, mais un autre message clair, Vous n'êtes pas vous-même, vous habitez dans les campagnes, a dit donc comme à Amber, mais vous n'êtes pas des citoyens de seconde zone. Non, non, vous aurez droit au même fléau que les autres, et si vous êtes sage, hein, vous les aurez même en avant-première. Hein, comme il y a des avant-premières peut-être de Wi-Fi, on ne sait pas où ça en est, a dit, hein, trop, le Wi-Fi à la médiathèque. Toi, tu as des nouvelles de ça, Adrien, le Wi-Fi à la médiathèque?
Ah non,
c'est en route ou pas? En avance sur quoi? Puisqu'il est de notoriété publique en 2015 que la production et la dissémination des nouvelles technologies a des conséquences dramatiques dans le monde à tous les stades. Extraction de minerais, fabrication, utilisation et traitement, retraitement, quand c'est le cas sur des personnes réelles et sur l'environnement. On sait aussi que le mythe de la dématérialisation est une foutaise, en témoigne l'énergie considérable dépensée au stockage des données et à leur traitement ainsi qu'au fonctionnement électrique de ces appareillages. On ne compte plus les addictions et les pathologies graves provoquées par l'utilisation de ces technologies. Par exemple, les personnes souffrant d'électro-hypersensibilité et venant trouver du répit dans nos montagnes. On est en Auvergne, là on est à Amber. Hein. Jusqu'ici, mieux préservées des ondes électromagnétiques que le reste du pays. Ces gens n'ont-ils pas le droit, eux aussi, à l'égalité territoriale, ou est-ce une hypocrisie à sens unique ? Voilà, on se retrouve donc des problématiques. Hein. Ce système insoutenable a du plomb dans l'aile, mais se maintient par des guerres tout à fait physiques ou matérielles, hein, par opposition à à tout cet immatériel qu'on nous vend, qu'on nous donne ou qu'on nous fourgue, avec lequel on veut nous gaver. À travers des guerres à travers le monde et une propagande absolue avec la coupable participation de nos ambitieuses et élus. Cette révolution numérique à la campagne est loin d'être, comme le claironnent souvent les promoteurs de l'Auvergne high-tech, la conséquence d'une simple évolution des usages. Elle est plus souvent le fruit d'un lobbying acharné, comme c'est le cas, par exemple, à propos de l'implantation du livre numérique dans les bibliothèques du livre à doigts Forez. Alors là aussi, hein, donc maintenant, on pourrait se jumeler et voir ce qui se passe pour le livre numérique dans le DIWA. Et alors là, dans le livre à doigts Forez, derrière laquelle on retrouve implantation du livre numérique, derrière laquelle on retrouve évidemment le Conseil Général et la région Auvergne, donc maintenant la région Rhône-Alpes peut-être, hein. Mais aussi l'agence Rétis, hein, qui œuvre pour la promotion du numérique dans les politiques publiques et qui, elle, sans doute s'en fout des régions, et qu'on retrouvera peut-être à dire les bibliothécaires interrogés par le journal La Montagne, explique que, alors je cite une bibliothécaire, « Il est juste dommage que les lecteurs n'aient pas été plus curieux au cours de cette expérimentation et que peu soient venus s'emparer des tablettes pour rapidement être convaincus de leur richesse. » Ben ouais, donc en fait, les bibliothécaires, qu'on poursuit le journal, notent aussi avoir dû intervenir presque manu militari pour faire connaître ces nouvelles ressources. Donc une bibliothécaire, on a vraiment pris le public par la main. Chaque lecteur qui passait devant la banque de prêt avait droit à sa petite explication sur l'expérimentation menée. Manque d'enthousiasme, peur de ne pas y parvenir, notamment chez les lecteurs les plus âgés, ou simple méconnaissance du dispositif, les médiathèques ont encore du chemin à faire pour généraliser ces nouvelles façons de lire, s'informer et se documenter, conclut La Montagne, enthousiaste, bien sûr. Hein. Voilà, donc ce journal quand même qui descend La Montagne nous propose une traduction. Le livre numérique, tout le monde s'en cogne, ce n'est pas pour autant que l'expérimentation, entre guillemets, prévue initialement pour 3 mois, en 2012, hein, ne se poursuit pas aujourd'hui. Enfin, oui, elle se poursuit. Voilà. 3 ans de bourrage de crâne et ça finira bien par rentrer. Donc, même rhétorique de la part du syndicat national de l'édition. Enfin, bon, ce journal est bien. Voilà. Me fait bien plaisir dans la façon dont les choses sont décortiquées et.
Et tu disais qu'on parlait même de la Biovallée ou tu sais, peut-être c'est un passage que tu maîtrises pas.
Oui.
Tu vas peut-être avoir du mal à retrouver.
Ouais. C'est-à-dire que je crois qu'ils l'ont cité sans mettre le petit R.
Ah bon, oh là là,
entouré,
là, quelle honte.
Auquel on est très habitué quand même.
Et très attaché.
Avec voilà et ce qui fait que je n'arrive pas à le choper au passage de ces nombreuses pages puisque c'est quand même. Alors je pense qu'on le trouve si on va à Amber. C'est pas très loin. Alors par exemple, où est-ce qu'on peut trouver un journal qui en allant à la librairie, voilà, c'est comme s'il y avait un journal comme ça. Peut-être qu'il serait à la librairie, en allant à la mairie, peut-être.
Oui.
Peut-être. En tout cas, il y a un article par rapport à la mairie aussi. Je sais pas si j'ai, c'est une page. Peut-être que j'ai le temps de le lire en entier, car il parle de caméras de vidéosurveillance.
Ah oui.
Donc un sujet croustillant sur lequel on aime bien s'esclaffer. Voilà. Ça va être le cas. Caca et caméra. Voilà, c'était le titre. Caca et je vous avais dit.
Un bon sujet de rigolade.
Voilà, caca et feu de tout bras. Donc, il commence bien sûr par un adage populaire qui pourrait être le proverbe du jour. Merci de laisser l'état dans les toilettes, vous l'avez trouvé en entrant, nous dit la voix de la sagesse populaire. En politique, il faut savoir être fair play. Nous tenons à réhabiliter la mairie d'Ambert. Donc, on peut peut-être trouver ce journal à la mairie d'Ambert. En dépit de son déplorable bilan, il s'agit de la mairie, hein, pas de ce journal, il s'agit d'une équipe qui sait honorer ses promesses. On nous avait promis un gaspillage budgétaire considérable afin de rogner un peu plus les libertés en épiant nos faits et gestes via des caméras sur l'espace public. Myriam Fougère, soucieuse de plaire à ses mentors d'extrême droite, à son mentor d'extrême droite, Brice Hortefeux, prophète, entre guillemets, de la vidéosurveillance urbaine, vient d'en poser la première pierre. Donc merci Myriam Fougère de la mairie d'Ambert, donc saluée, honorée par ce journal. En effet, montant en épingle un événement effroyable, des inscriptions au caca. Là, il y a un point d'exclamation, entre parenthèses, sur les murs des toilettes du cinéma, ainsi que quelques graffitis, entre parenthèses, orange, dans celle de la mairie. La majorité municipale avait sauté sur l'occasion pour installer des caméras à titre expérimental. Vraiment, on aime beaucoup Ambert, on a l'impression que c'est une ville d'expérimentation phénoménale, hein, avec vue donc sur l'entrée des dites toilettes. Après 5 mois d'instruction en préfecture, le dispositif a été légalisé et dernièrement installé dans le hall de la médiathèque en attendant la généralisation dans les rues de la ville. L'étude de la préfecture visait à, entre guillemets, évaluer la pertinence en matière de sécurité publique. Fermez les guillemets. Il n'y a rien d'étonnant à ce que cette dernière, la préfecture, donc conclut positivement à cette enquête, puisque les sous-préfets successifs et la gendarmerie se comportent depuis plusieurs années comme de véritables vendeurs représentants placiers des entreprises de vidéosurveillance en organisant des réunions promotionnelles auprès des élus du territoire, comme à Saint-Martin-des-Olmes il y a 2 ans. Donc là, Saint-Martin-des-Hommes, on ne connaît pas encore, on va sans doute bientôt, voilà, hein, maintenant on est des frères dans de région et des sœurs, voilà, on va, mais c'est, voilà, comme, un peu comme dans le Diwa, là c'est en Auvergne. Hein. C'est à cette occasion que la gendarmerie, ils ont aussi des gendarmes, donc actifs, avait présenté avec succès le modèle d'un logiciel automatique de détection des comportements anormaux couplé à des caméra intelligente, tout ça est entre guillemets, de tels mots seraient incapables de sortir tout seul de ma bouche. Constipation, diarrhée, encore faut-il définir ce qu'est un comportement anormal. Et oui, la question est posée par cette logique locale que nous partageons. Ce logiciel permettrait de réduire les coûts du dispositif en se passant de la présence permanente d'êtres humains derrière les écrans. Alors derrière, c'est de quel côté ? On ne sait pas trop, hein. Peut-être devant aussi. En ces temps de disette budgétaire, le totalitarisme n'est abordable qu'à tarif négocié. Je pense que diminuer le nombre de gens à surveiller, c'est tout à fait... ça rend les choses plus abordables. Voilà. Car installer la vidéosurveillance au moindre incident, c'est accepter que cette société bascule progressivement dans le fascisme pour une vulgaire histoire de caca sur les murs. Autrefois, pour nous convaincre d'abandonner une part aussi importante de notre vie privée, il fallait prétendre sauver des vies. À présent, il suffit d'invoquer la propreté murale. Et demain, des caméras dans les classes pour empêcher Kevin et Samantha de bavarder, c'est le dogme de notre époque. À chaque petite contrariété, sa réponse technologique et sécuritaire pour Myriam Fougère et son équipe élue de la mairie d'Ambert. 63, Puy-de-Dôme. Il s'agit surtout de flatter le sentiment de peur chez les gens en prétendant le résoudre. La logique étant la suivante. S'il y a des caméras, c'est qu'il y a quelque chose de dangereux à surveiller. Dans le cas du cinéma, le sujet est clair, les jeunes. Ceux-là qui ont bien fini par échouer quelque part, vu l'absence absolue d'espace leur étant dédié au quotidien, la maison des jeunes, la plupart du temps, est fermée au public, n'étant rien d'autre qu'une salle de bal et de spectacle occasionnel pour tous les âges. Alors voilà, un petit peu d'avance en Ambert sur 10 quand même, hein, peut-être. Enfin, on ne sait pas. Là, je m'avance en politique fiction. Je vais retourner à l'article qui est concret. Ce que la mairie refuse d'admettre, c'est qu'il n'y a pas plus de jeunes étalant leurs excréments sur les murs des toilettes que de vieux bourrés pissant droit devant eux sur les passages cloutés. Voilà l'état du crime à Ambert. Des histoires de pisse et de chiasse dont la ville s'accommode depuis l'époque gallo-romaine d'Amberitos. Et pour lesquels les Myriam Fougère entendent aussi nous faire entrer dans l'ère du contrôle panoptique, l'absence d'angle mort et des logiciels de détection automatique des comportements anormaux. Mais peut-être pourrions-nous lui suggérer une autre façon de laisser sa trace. Oui, ça c'est marrant. En fait, j'aurais peut-être dû lire cet article finalement dans HHPQ. Voilà, dimanche soir, je reviendrai peut-être. Encore, allez, ça vaut le coup d'aller à Ambert à 9h moins le quart, peut-être pas. Enfin, partez, il y a quand même peut-être... Voilà, c'est à, mettons, 300 km, entre 300 et 400 km. En tout cas, un article sur Brice Hortefeux et Myriam Fougère, une élue d'Ambert qui a des bons liens avec, avec ce Brice. Et puis, bon, un article que j'aimerais bien vous lire plus tard, une autre émission du E-Commerce pour le Centre Bourg. Alors là, la citation de, en exergue, c'est « On ne fait rien de mal, on constitue juste le smart data ». Alors pour l'instant, c'est encore de la science-fiction, puisque je vous lirai cet article lors de, dans le futur.
Tu nous expliqueras ce que c'est le smart data.
Voilà, cet article nous fait un point salutaire sur tout ça. Voilà. Donc,
okay,
pas quid des vidéos caméras de surveillance à dit. Alors, à part celle qui est dans le magasin de reprocopie du centre-ville et qui filme le trottoir, et celle des banques, je crois, et celle des Intermarchés, je crois que pour l'instant, amis ambertois, ambertoises, si vous nous écoutez, et si vous écoutez les frères et les sœurs de cette région lointaine et enneigée comme vous, un petit peu, on n'a pas fait de point météo, mais
Il n'y a plus de neige. Hein,
non, il y a encore de la neige sur le Landas, oui. Une fameuse montagne de chez nous. Voilà. pour l'instant, les caméras vidéo sont privées.
Oui,
sont,
voilà, c'est ça.
Ouais, nous, on ne fait pas de dépenses publiques.
Ah, ouais, j'ai oublié de citer, mais ce n'est pas tout de suite. Là, c'est le 9 février. En parlant de ça, parce que je pense que c'est en lien directement ou indirectement, mais en tout cas, le 9 février, il y aura une bonne occasion de s'amuser d'Andy. Peut-être de voir des caméras, enfin bref, d'en faire quelque chose.
Aussi parce que sur le site il y a un site internet qui est proposé pour avoir des infos sur où s'assembler ou avoir un peu quelle idée est faite ce carnaval.
Voilà, le carnaval de Die, voilà, c'est ça que je pensais.
Il y a des vidéos qui sont en ligne aussi. D'accord. Je suis allé voir sur le site et on voit effectivement. Voilà, des gens qui ont filmé la rue, aussi, enfin qui ont filmé, mais bon, c'est sympa parce que du coup, c'est des gens qui font carnaval, ça donne des idées. Si vous n'avez pas d'idées, okay, vous pouvez aller sur le site de Carnaval de Die. Si vous avez des idées, vous pouvez vous déguiser, venir.
Ouais, voilà. Mais c'est ça, je crois qu'en fait, l'idée, c'était assez chouette de venir, de se déguiser, puis d'inverser les rôles, de mettre un peu sans dessus dessous les codes habituels. Donc, c'était un peu dans l'idée du carnaval tel qu'il a... qui s'est propagé et qui a fait florès de partout en Europe il y a déjà quelques siècles. Voilà. On touche à la fin de notre émission, presque.
Mais écoute,
là,
on est à un quart d'heure près.
Ah bon,
on est parfaitement bien tombé. Mais ça tombe bien. Si t'as pas, enfin, tu peux rajouter du coup des petits quelque chose ou même un grand quelque chose, quoi, du coup. Mais sinon, moi, j'avais prévu pour une fin d'émission enjouée.
Oui.
Et en tout cas, enjouée, parce que bon, alors on va entendre des choses un peu dures, peut-être si on a le temps, parce que je vais vous faire entendre un début d'émission. Mais enjouée, parce que c'est une bonne nouvelle, une émission de radio féministe sur Radio DC, qui est une radio qui émet, tenez-vous bien, à Julien Molin-Molette, voilà, dans le Pila. Et grâce aux rencontres, aux récentes rencontres du mois de novembre, inter-radiophonique et pas encore intergalactique, mais peut-être l'année prochaine, si c'est dans le Diwa, enfin bon, on va pas. Voilà, ouais. On a rencontré des gens de Radio DC.
Ah ouais.
Voilà, une radio locale, comme nous, voilà, dans une montagne, comme nous, où il y a aussi.
Dans la région Auvergne, comme nous.
Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Voilà, mais vraiment, on fait un programme d'une homogénéité. Ce soir, une vraie mayonnaise végane. Reconnue pour être mieux homogène. J'ai entendu des panels de spécialistes.
C'est ça, c'est à côté de Saint-Etienne, hein, Saint-Génie-Molin.
Oui, tout à fait, au-dessus de Saint-Etienne.
Ouais.
Et donc, ben voilà, c'était vous proposer le début de cette émission qui s'appelle FFF. Alors, allez.
Tu veux dire?
Ben, je me rappelle plus, mais je crois bien que la question est abordée. Vous aurez le temps d'entendre le générique et puis même le début d'émission. D'ailleurs, je vais tout de suite le programmer. Voilà, ben, elle est programmée en fait.
Ok.
On se dit au revoir jeudi prochain.
Ben, peut-être qu'on peut te dire à dimanche dans HHPQ pour avoir des nouvelles encore de la.
Oui, c'est vrai. Pourquoi pas une relecture agrémentée de nos amis du hip-hop.
Ouais.
Pour continuer à donner des nouvelles d'Ambert.
Ok, et ben bah, alors sinon la semaine prochaine.
Allez. Oui, pas avant, toi tu n'as pas non plus de programme avant
non,
jeudi prochain.
Non, je ne crois
pas d'interview.
En tout cas, je peux signaler qu'il y aura quand même une émission qui est en train de se monter sur que des gens de la Bonafama mettent en place et avec une première interview. d'une gynécologue naturopathe féministe, du coup on est encore là-dedans, Rina Nissim, qui était venue faire une conférence l'année dernière. Elle a été interviewée, elle sera sur les ondes bientôt. Voilà.
Fréquence furie furieuse, voilà, ouais. Et c'était le petit rien de l'émission qui en fait est du lourd, Adrien, donc on retient, à la semaine prochaine, salut.
Ciao, ciao. Je suis une bâtarde, je suis conne. Je suis l'amante religieuse, j'en ai pas peur de vous. Une émission féministe.
Chut. On avait dit de pas le dire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous êtes à l'écoute de Fréquence Furie Furieuse. Aujourd'hui, on vous propose une série de chroniques histoire de revenir sur l'actu de ces derniers mois. Vous allez entendre Sophie vous présenter des brèves du planning, mais pas que. Aussi, Audrey est allée à Paris et débrief le festival du film lesbien. Et pour cette fin d'année, vous entendez un bisou à 2015 et des idées de bouquins à offrir pour les plus petits. Un retour sur le Salon du Livre Jeunesse. Bonne écoute à vous. Bonjour Sophie, bonjour,
bonjour
Audrey.
Salut.
Sophie, tu avais envie de nous faire un petit point actualité et planning familial.
Alors, j'ai voulu faire une chronique à partir de quelques infos que j'ai pu lire dans la revue de presse du planning familial qui paraît toutes les semaines. Elle permet à son lecteur de s'informer sur différents événements qui touchent à la sexualité à travers le monde en lui donnant accès à des articles sur différents sites internet. Sur le site 50-50 Magazine, on peut notamment apprendre que le 28 novembre, un homme armé a fait éruption dans la clinique du planning familial de Colorado Springs, tuant 3 personnes, une femme et 2 hommes, et en blessant 9 autres. Le site précise que cela se produit alors qu'une campagne sans précédent a été lancée contre le planning par les républicains et les religieux. Il ajoute également que la réalité nous rappelle que cette radicalisation anti-avortement a produit depuis 1977 8 meurtres, 17 tentatives de meurtre, 42 attaques à la bombe, 186 incendies criminels et des milliers d'incidents criminels contre les personnes et centres qui assurent les services de santé sexuelle et reproductive aux femmes et particulièrement aux femmes qui n'ont pas les moyens d'aller dans le privé. Plus près de chez nous, le planning nous propose un reportage Arte sur une équipe itinérante de prévention à la sexualité en Roumanie. On peut lire sur le site Arte qu'après la chute du régime Ceausescu en 1989, le monde découvrait ces sinistres bâtisses où de milliers d'enfants étaient abandonnés dès le plus jeune âge. Une conséquence directe de la politique nataliste du dictateur qui avait interdit la contraception et les IVG. Les abandons d'enfants étaient encouragés et organisés par l'État. Aboli aujourd'hui, le décret 770, qui interdisait aux Roumaines le recours à la contraception et à l'avortement, n'a pourtant pas fait diminuer le nombre d'abandons d'enfants. Il serait 10 000 à 12 000 enfants chaque année selon l'Agence nationale pour la protection de l'enfance. Plus de 60 000 enfants sont actuellement sous la protection de l'État, dans des orphelinats, des familles d'accueil, chez des assistantes maternelles. Depuis 2003, les ONG Care France et Serra Romagna financent un programme de planning familial itinérant qui vise à réduire le nombre de grossesses non désirées et donc d'abandon d'enfants. L'assistante médicale et l'assistant social se rendent au domicile des familles pour les conseiller et les informer. Il s'agit d'expliquer aux femmes vulnérables, isolées ou à risque, le principe de la contraception, leur fournir des aides sociales, suivre les grossesses éventuelles, proposer des cours d'éducation sexuelle. Care France et Serra Romagna ont financé le lancement et l'installation de ces programmes dans la moitié des départements roumains. Au bout d'un an ou deux, les autorités locales prennent le relais. Les résultats sont globalement encourageants, même si les équipes se heurtent à des réticences liées au tabou, au faible niveau d'éducation, à l'entourage familial et social, ainsi qu'au manque de coopération de certains services médicaux. Depuis son lancement, 94 000 femmes ont bénéficié de ce programme et 60% d'entre elles ont décidé d'utiliser un moyen de contraception. Résultat, une baisse du nombre d'abandons, une baisse du nombre d'avortements, un meilleur suivi des grossesses désirées. Je vous conseille donc ce petit reportage qui s'appelle « Roumanie, planning familial itinérant » et que vous trouverez sur le site d'Arte. Sur Arte également, et encore plus proche de chez nous, vous pouvez également visionner un autre reportage que vous trouverez en tapant « Médecin contre l'avortement ». En Italie, de moins en moins de médecins acceptent de pratiquer l'avortement, pourtant légalisé depuis près de 40 ans. La légalisation de l'avortement date de 1978. Une évolution sociétale célébrée comme une victoire à l'époque par les féministes. Sauf que 37 années plus tard, les médecins qui acceptent de pratiquer l'interruption volontaire de grossesse dans le pays se font de plus en plus rares. La loi 194, qui encadre l'IVG, permet en effet au corps médical de ne pas respecter les directives de cette dernière, en refusant de pratiquer l'intervention au nom de l'objection de conscience. Et ces objecteurs ne cessent de gagner du terrain. Alors qu'ils étaient déjà 58% il y a 10 ans en Italie, ils sont désormais 68%, et jusqu'à 90% dans la région de Rome ou de Naples. Présidente de l'association Vita di Donna, qui milite sur les droits et la santé des femmes en matière de reproduction et de sexualité, Lisa Canitano livre quelques éléments d'explication. En Italie, des universités religieuses forment de futurs gynécologues catholiques et les aident à se faire embaucher et à faire carrière dans des établissements de santé publique. Du coup, le fait de ne pas appliquer une loi de l'État italien n'est pas considéré comme quelque chose de mal, bien au contraire. Et d'ajouter, le droit pour les femmes d'avoir une sexualité qui n'est pas exclusivement tournée vers la reproduction, en Italie, ça n'a jamais été possible. Vous trouverez donc ces deux reportages sur le site d'Arte. Et sinon, en France, quoi de neuf autour de l'avortement ? Quoi de neuf ? Bah, pas grand-chose, la routine en fait. Se battre encore et toujours pour préserver des droits durement acquis et supporter la bêtise des uns et des autres. Les uns, c'est par exemple le père Hervé Benoît qui, à la suite des attentats de Paris, a cru intelligent de dénigrer les 130 victimes en leur opposant les 600 avortements pratiqués chaque jour en France. Les autres, c'est dernièrement Marion Maréchal Le Pen et ses engagements auprès des militants de la Manif pour tous. Petit rappel, en octobre 2012, Marion Maréchal Le Pen avait estimé qu'il existait des interruptions volontaires de grossesse de confort et avait réclamé la fin du remboursement des IVG. Elle déclarait « Je pense que ce n'est pas à l'État de rembourser parfois une inattention de certaines femmes, alors qu'aujourd'hui, on a quand même les moyens de faire attention. » Mais la candidate l'affirme, elle n'est pas contre le droit à l'avortement, que les choses soient claires. Je suis pour une responsabilisation des femmes et surtout pour sortir de l'idéologie, explique-t-elle. Pas contre l'avortement donc, mais contre les associations qui en parlent. Car aujourd'hui, c'est de cela qu'il s'agit, quand, trop heureux d'avoir enfin trouvé un filon médiatique qui leur redonne une place dans l'audimat, les militants de la Manif pour tous lui demandent de prendre des engagements pour son potentiel mandat à la région PACA. Réponse donc de Maréchal Le Pen. Il y a vraisemblablement beaucoup de ménage à faire, il y a énormément d'associations politisées qui sont subventionnées, des subventions qui, moi, personnellement, me choquent en période de crise, particulièrement dans une région qui a un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale. 200 000 euros chaque année qui sont accordés aux plannings familiaux. Marion Maréchal Le Pen veut donc effacer d'entrée de plume, je cite, les subventions aux plannings familiaux, mais aussi aux associations telles que celles de la LGBT ou des choses comme ça, dont je condamne fermement l'idéologie. Et il n'est pas question de leur verser un sou, évidemment, demain à la région. Fin de citation. Supporter donc la bêtise des uns et des autres. Supporter et s'opposer. Y répondre, y faire barrage. C'est ce qu'ont fait Karine Favier et Véronique Seyer, coprésidentes du planning familial, dans une tribune publiée par France TV Info, dont voici des extraits. Si elles ne sont pas pour nous surprendre, ces prises de position confirment les vraies intentions de ce parti, contrôler et assujettir les personnes dans leur choix de vie. Ces menaces font tomber le masque d'une normalité républicaine affichée par le Front National. Mais en s'en prenant au planning familial, le FN s'attaque à la liberté chèrement acquise de milliers de femmes et d'hommes, jeunes et adultes, dans leur choix de vie. Une vraie régression. Supprimer les moyens de notre mouvement, c'est remettre en cause l'accès à l'information et à l'accueil, au quotidien, de 500 000 jeunes et moins jeunes par an dans nos 76 associations implantées sur tout le territoire, proposant écoute, information et orientation sur les questions de droit à la santé sexuelle. La démarche du planning familial est politique, globale et transversale. Parler d'égalité, lutter contre les violences ou pour une égalité salariale n'ont de sens qu'à travers une approche globale. Impossible de lutter contre le sida sans parler de sexualité et de parler de sexualité sans la situer dans le cadre de la problématique des rapports femmes-hommes. Tous ces combats passent par l'éducation à la sexualité, à la citoyenneté dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. Construire l'égalité entre femmes et hommes, comme entre citoyens et citoyennes de toutes origines et de toutes situations sociales, est le fil rouge de toutes nos actions. Mais enfin, vous me direz, tout ça, c'est derrière nous. Deuxième tour des régionales, Front républicain et tout le tintouin, et bye bye le Front national et sa marionnette. Mais en parlant de marionnettes, rappelons-nous que pour nous en Rhône-Alpes.
Allez, donc pour Feu de tout bois, on s'arrête ici. Donc c'est une émission spéciale Auvergne, peut-être un petit peu, mais pas que. Retrouvez en tout cas cette émission qu'on est obligé d'interrompre sur le site internet de Radio d'ici. Et c'est l'émission FFF, Fréquence Furieuse, une émission de. Date n'est pas taguée, mais de la fin de l'année dernière, je crois, ou du début janvier.